Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous. Comme tous les matins à cette heure-ci, RFI vous donne la parole. Dans un instant, vos questions à la rédaction d'RFI, c'est votre moment privilégié avec les journalistes, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. N'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter, vous pouvez le faire tout au long de la journée. On a d'ailleurs besoin de vos questions en amont pour contacter nos experts au sein de la rédaction d'RFI. Un seul numéro de téléphone, 09 693 693 70, et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat, et nous parlerons de la tournée africaine de François Hollande. Le président français entame aujourd'hui son 18e déplacement en Afrique. Il est attendu au Bénin, en Angola et au Cameroun, trois pays pour parler notamment de démocratie, d'échanges économiques et de sécurité. Et ce sera l'occasion pour nous de dresser un état des lieux de la politique africaine de François Hollande. D'ailleurs, rappelez-vous, comme Nicolas Sarkozy, son prédécesseur, François Hollande annonçait une rupture. Une rupture par rapport, je le cite, à des usages qui n'ont rien d'acceptable. Fini donc la diplomatie parallèle. Qu'en pensez-vous? On en parlera évidemment ensemble et on dressera donc un bilan 3 ans après l'élection de François Hollande et vous nous direz si cette rupture a eu lieu ou pas. 33 9 693 693 70. Des questions après l'attentat de vendredi dernier en Tunisie. Je vous rappelle le bilan. 38 personnes tuées sur une plage près de Sousse. Bonjour Ali.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez du Niger. On vous écoute.
La Tunisie a été plusieurs fois touchée par des attentats. Pourquoi la Tunisie est la cible répétée de l'État islamique?
Oui, cette attaque, rappelons-le, a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique, tout comme l'attaque il y a 3 mois contre le musée du Bardo à Tunis, qui avait fait 22 morts. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions djihadistes à RFI, ancien correspondant en Tunisie. C'est un pays que vous connaissez bien. Pourquoi ce pays est-il la cible de l'organisation de l'État islamique?
La raison, elle est à la fois simple et compliquée. Historiquement, la Tunisie est une terre d'exportation de djihadistes depuis le premier djihad contre les soviétiques en Afghanistan. Il faut se rappeler que le commandant Massoud, la veille du 11 septembre, avait été assassiné par un commandant tunisien. Les Tunisiens étaient très nombreux également à combattre les Américains tout de suite après l'invasion de 2003 en Irak. En Bosnie également. Bref, les Tunisiens sont présents sur l'état du djihad depuis un moment.
Et ils sont d'ailleurs présents majoritairement aujourd'hui parmi les, on va dire, les étrangers sur le terrain syrien et irakien. Ils sont 3000.
Aujourd'hui, la Tunisie est même devenue le premier exportateur mondial de djihadistes, que ce soit en nombre, en chiffres, 3000 selon les chiffres officiels qui sont vieux d'un an, mais qui donnent toujours une idée de la situation, effectivement, djihadistes tunisiens en Syrie et en Irak. Plusieurs centaines, on n'a pas les chiffres exacts, en Libye maintenant, puisqu'il y a une branche très importante de l'EI en Libye. Et puis, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Donc, ça fait donc aujourd'hui de la Tunisie le premier exportateur en nombre et en proportion de sa population, 11 millions d'habitants. Voilà pourquoi la Tunisie est directement menacée. La raison supplémentaire, c'est que la Tunisie, le seul pays du printemps arabe où la transition démocratique a fonctionné. C'est bien passé. Il y a eu une transition pacifique entre les islamistes politiques, Ennahda, le mouvement Nida Tounes, qui est aujourd'hui au pouvoir, anti-islamiste, depuis décembre dernier. Il a gagné les élections. Donc, les djihadistes combattent cette démocratie.
Donc, ils ne veulent pas d'un État laïque et ils ne veulent surtout pas d'un État démocratique.
Ils combattent la démocratie. Leur stratégie pour combattre la démocratie, elle est très simple, c'est saper l'économie du pays en s'attaquant à les cibles touristiques. Le tourisme, on le rappelle, c'est 14% de la population active, 7% du PIB, c'est quelque chose de vital pour l'économie du pays. Donc déstabiliser, créer une situation de chaos, c'est ça la stratégie pour en tirer un bénéfice politique et éventuellement prendre le pouvoir. C'est ça la stratégie des djihadistes aujourd'hui.
Faire peur aux touristes, faire peur également aux investisseurs qui, on le voit bien, sont assez réticents à investir en Tunisie. Ce qui est quand même assez surprenant, David Thompson, c'est la réaction du président tunisien. Il a reconnu que son pays ne s'attendait pas à une attaque sur une plage.
Oui, alors effectivement, beaucoup d'observateurs s'étonnent de cette réaction. Il faut rappeler qu'en octobre 2013, sur une plage de Sousse, devant un hôtel, un kamikaze avait raté son opération suicide en ne tuant que lui-même. Mais c'était un signe qui aurait dû alerter les autorités. Il faut rappeler que depuis la fin 2012, début 2013, pas un mois ne passe en Tunisie sans que des accrochages meurtriers aient lieu entre des djihadistes et des forces de sécurité tunisiennes. Une centaine d'agents, tout corps confondu, ont été tués dans ces accrochages depuis la fin 2012. Il faut rappeler également que dans tous les communiqués, les djihadistes de l'État islamique appellent à menacer la Tunisie d'attaque notamment contre les cibles touristiques. Donc aujourd'hui, en Tunisie, le débat commence à naître, la polémique sur est-ce que le parti Nida Tunis, qui est aujourd'hui au pouvoir, qu'il faut le rappeler, a fait campagne contre le parti islamiste Ennahda sur le thème de la sécurité, justement, qui a été élu en promettant le retour de la sécurité. On voit que la situation ne fait que se dégrader, les attentats sont de plus en plus nombreux, de plus en plus spectaculaires. Donc il commence à y avoir des questions en Tunisie.
Ouais, les autorités tunisiennes qui ne tirent pas les leçons des différents communiqués djihadistes et des différents attentats. Restez avec nous, David Thompson, spécialiste des questions djihadistes. Autre question, Khalifa, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez du Mali, vous êtes à Niouro, on vous écoute.
Oui Juan, j'aimerais poser une question sur les attentats qui ont eu lieu le vendredi dernier en France, en Tunisie et au Koweït. Ma question est la suivante, pourquoi ces attentats ont eu lieu le même jour? Cette date est-elle importante pour l'État islamique?
Alors, c'est vrai que c'était, David Thompson, un vendredi noir, série d'attaques à travers le monde. En France, on va en parler dans un instant avec Guilhem Deltaï du service France qui vient nous rejoindre. En Tunisie, on en parlait à l'instant. Au Koweït, un kamikaze qui se fait exploser dans une mosquée où 2000 fidèles étaient rassemblés. Bilan, une trentaine de morts. Attaque également en Syrie, plus d'une centaine de morts vendredi dernier à Kobané. Attaque également en Somalie, les islamistes Shebab qui tuent des dizaines de soldats. Coïncidence ou pas?
Oui, les Shebab ne font pas partie du tout de l'État islamique, donc ils agissent de façon totalement indépendante, ils sont officiellement liés à Al-Qaïda. Les deux groupes sont en concurrence aujourd'hui dans chaque près dans tous les pays où ils sont présents. Il semble pas aujourd'hui qu'il y ait eu une concertation pour mener des attaques simultanées comme le faisait avant Al-Qaïda. Mais c'est vrai qu'il y a eu un appel quelques jours avant du porte-parole officiel de l'État islamique Abu Mohammed Al-Adnani qui appelait à faire du mois de Ramadan un mois particulier. Particulièrement sanglant.
Un mois de malheur pour les mécréants, a-t-il
dit. Absolument. Mais il faut tout simplement réaliser que beaucoup de pays aujourd'hui sont menacés directement par des attaques de ce type. Tout simplement parce que l'État islamique a réussi à attirer 80 nationalités différentes de combattants étrangers dans ses rangs. Donc certains pays sont plus menacés que d'autres par des retours de djihadistes qui mèneraient des attaques sur leur territoire national d'appartenance. Il y a des pays qui sont plus menacés que d'autres, ouais. La France et la Tunisie en particulier.
Faut-il y voir un lien, David Thompson, sur le fait que vendredi, on était à deux jours de l'anniversaire de la proclamation du califat par l'organisation État islamique. Est-ce qu'il y avait une volonté là de cette organisation terroriste à provoquer un choc mondial, à marquer les esprits des Occidentaux?
Pas forcément. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce type d'attentat, ils ne vont pas forcément répondre à un agenda, mais ils vont simplement être de plus en plus fréquents. On voit qu'en Tunisie, le dernier attentat de ce type remonte à peine 3 mois. C'était l'attentat du Bardo. 22 morts, dont 4 Français. 3 mois plus tard, exactement le même type d'attentat, mené d'ailleurs par un jeune qui avait été formé en même temps que les auteurs de l'attentat du Bardo. Donc, il faut peut-être moins s'interroger sur l'aspect calendrier que sur la récurrence qui va être... ces attentats vont être de plus en plus fréquents.
Et un dernier point, avant de passer au standard pour d'autres questions, le fait que ça soit un vendredi, jour de prière...
Peut-être pas non plus.
Pas non plus. D'accord. Reste avec nous, David Thompson. On accueille Guilhem Deltaï du Service France. Bonjour Guilhem.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre. Abdoulaye est à Conakry. Il a des questions concernant l'attentat de vendredi dernier contre une entreprise de gaz industriel en Isère. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI et plus particulièrement ceux de la Guinée.
Vous habitez. On vous écoute.
Oui, Juan. La semaine dernière, un homme a attaqué une usine de gaz en Isère, faisant un mort. Sur ce, mes questions sont les suivantes. Que sait-on exactement des motivations derrière cette attaque? que sait-on d'une possible affiliation du meurtrier à une organisation terroriste? Peut-on parler d'un acte terroriste?
Alors, acte terroriste ou pas, Guilhem Delteil, hier soir, Yacine Sali, l'auteur présumé de cette attaque, a été mis en examen. Il a été placé en détention provisoire, mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Commençons d'abord par la première question d'Abdoulaye. Que sait-on de ses motivations?
Mais il y a un petit peu deux versions différentes, voire opposées, hein, des motivations de cette attaque de vendredi. Tout d'abord, celle de Yacine Sali lui-même, qui au début de sa garde à vue, pendant à peu près 36 heures, a gardé le silence, et puis qui finalement a fini par commencer à parler aux enquêteurs. Alors lui dit que c'est un différend professionnel finalement qui l'a poussé à commettre ce meurtre, qu'on sait que le mercredi qui a précédé, il s'était disputé ou fait disputer par son responsable, Hervé Cornara, sa future victime, parce qu'il avait fait tomber une palette d'équipements informatiques. Il évoque aussi une dispute conjugale la veille, donc avec sa femme. Selon le procureur de Paris, il se plaignait du manque d'implication religieuse de son épouse. Il aurait dit qu'elle avait envie de le quitter et qu'il s'était disputé à ce sujet-là donc la veille. Et donc il nie finalement lui toute dimension religieuse à son geste. C'est un crime de droit commun finalement, dit-il, pas un crime terroriste.
En même temps, il y a certains faits qui laissent à penser qu'il s'agissait bien d'une attaque terroriste.
Oui, c'est effectivement là-dessus que se base le procureur de Paris notamment. Il y a la mise en scène, la tête décapitée accrochée à un grillage avec deux drapeaux sur lesquels était écrite la shahada, la profession de foi des musulmans. Le fait qu'il a crié « Allah Akbar » au moment où les pompiers l'ont empêché d'ouvrir et de faire exploser un certain nombre de bouteilles de bonbonnes de gaz acétone qu'il avait sous la main dans le hangar de l'entreprise. Et puis, il y a son profil d'islamiste radical. Alors, la surveillance avait été levée. On n'a jamais véritablement trouvé finalement de preuves qui représentaient un danger pour la sécurité de l'État.
Il faut dire qu'il était connu des services de renseignement depuis 2004.
Depuis 2004, il avait été fiché en 2006. La fiche n'avait pas été renouvelée en 2008, mais on avait reparlé de lui ensuite après les années 2010. Enfin, finalement, au fil des ans, on voit que à chaque fois, on réapprend qu'il traîne avec qu'il fréquente des personnes qui eux ont des liens avec le djihadisme. Il y a Jean-Frédéric Salvi, dit le Grand Ali, qui, selon la police indonésienne, était lié à des militants d'Al-Qaïda qui préparaient des attentats à Jakarta. Ça, c'était en 2010. Donc après que Yacine Sali l'ait fréquenté, puis il a fréquenté aussi. C'est pour ça qu'il a été resignalé à un moment. Il avait un lien avec une personne qui elle-même était proche du groupe Forza Analiza, un groupe salafiste dont 14 membres ont été jugés au début du mois à Paris pour participation à un groupe formé en vue de la préparation d'actes terroristes. Donc on voit qu'il y a quand même des liens, même s'ils sont très diffus. Il y a des liens à plusieurs périodes finalement qui se renouent avec ces milieux salafistes et djihadistes.
Ouais, 5 jours après les faits, a-t-on des informations sur une possible affiliation de Yacine Sali à une organisation terroriste?
Alors, pour prouver une véritable affiliation, il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'éléments, pas de matériel de propagande retrouvé non plus, ni à son domicile, ni dans ses affaires. Il a fait un séjour en Syrie, mais c'était en 2009, bien avant donc le début de la révolution contre Bachar el-Assad, et donc avant la présence de groupes djihadistes dans le pays. Il y avait les drapeaux qui entouraient la tête de sa victime accrochée sur le grillage, mais ce ne sont pas ceux non plus d'une organisation djihadiste. Alors, les éléments qui peuvent vraiment faire penser à une attaque terroriste sont alors le mode opératoire, la décapitation.
C'est une première d'ailleurs en France.
Dans le cadre effectivement d'une attaque de cette ampleur-là, c'est effectivement une première en France. La tête accrochée, ça souligne que l'organisation de l'État islamique appelle régulièrement à commettre des actes de terrorisme en France, à égorger des mécréants. Enfin, c'est le point que soulève en fait le procureur de Paris. Il dit que cette mise en scène vise à donner une publicité maximale au crime. Sali a ensuite tenté de faire exploser des bouteilles de gaz. Ça ressemble à une opération martyr, mais là finalement on n'est que dans une affiliation assez indirecte. Lui-même refuse de s'exprimer sur la mise en scène. Il dit qu'il ne s'en souvient plus. Amnésie assez opportune aux yeux de procureur. Le seul élément tangible, finalement, qui peut le relier à l'État islamique, ce sont les photos prises de la tête décapitée, qu'il a envoyées, effectivement, à un de ses contacts en Syrie. Contact qui dit, et ça le procureur l'a dit, David a pu le confirmer, qu'il est à l'origine de ce geste. Donc, on n'est peut-être pas dans une affiliation directe, mais qu'il ait été inspiré, qu'il ait...
Donc, il y aurait David Thompson, puisque vous avez eu des informations directes, d'une implication de l'organisation de l'État islamique dans l'attentat de vendredi dernier en France.
Oui, exactement comme vient de le dire Guilhem Delteil, effectivement, les informations qui ont été données par le procureur Molins, le procureur de la ville de Paris hier,
ont été confirmés par nos sources au sein de l'État islamique, qui nous précisent que cet attentat n'a pas été directement commandité par l'organisation, mais qu'en revanche, l'un des combattants français actuellement en Syrie au sein de l'État islamique a incité par téléphone et par les réseaux sociaux cet individu à commettre cet acte. Aujourd'hui, l'organisation est en train de s'interroger sur l'éventuelle possibilité ou non de diffuser un communiqué avec cette fameuse photo de la tête décapitée pour revendiquer ou au moins saluer cette action au nom de l'organisation. Mais tout dépend un petit peu de la stratégie de défense de cet individu actuellement devant la justice française.
On verra ça dans les prochaines heures, voire même les prochains jours. Merci à tous les deux, Guilhem Delteille et David Thompson, d'être venus répondre à quelques questions au 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, notre débat du jour consacré à la tournée africaine de François Hollande. Elle démarre dès ce soir. Il est attendu à Cotonou, au Bénin. Ensuite, il ira en Angola et au Cameroun. L'occasion donc de dresser un état des lieux de la politique africaine de François Hollande. Ariane Gaffury nous rejoint, journaliste au service économique d'RFI. Bonjour Ariane.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Avec vous, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de la colère des chauffeurs de taxi en France. Bonjour Camille.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Compiègne, on vous écoute.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour auditeurs de Radio France Internationale. Le gouvernement français veut interdire Uberpump. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-il difficile en France d'interdire Uberpump alors qu'ailleurs il est interdit d'exercer en Europe?
Alors c'est une très très bonne question, Ariane Gaffury. On a vu les taxis la semaine dernière en colère manifester. Ils réclament la désactivation de cette application Uberpop. On va d'abord peut-être expliquer en deux mots la différence entre Uber et Uberpop.
Tout à fait. Alors Uber, c'est une société de VTC, ce qu'on appelle les véhicules de transport avec chauffeur. Alors grâce à une application sur smartphone, Uber met en relation des clients avec des chauffeurs professionnel. Et là, c'est un service légal. Dans le cas d'Uberpop, eh bien, l'application permet à un particulier, comme vous et moi, de s'improviser chauffeur, sans formation spécifique et sans payer de charges. Et cela, c'est illégal. Et malgré cela, eh bien, la start-up américaine, elle continue à opérer sur le territoire auprès de 400 000 utilisateurs.
Oui, les chauffeurs de taxi dénoncent une concurrence déloyale. Alors, effectivement, le gouvernement dit depuis des semaines et des semaines qu'Uberpop est illégal et pourtant, l'application fonctionne toujours. Comment expliquer ce paradoxe?
Eh bien, parce qu'Uberpop est en effet considéré illégal, presque partout en Europe d'ailleurs, mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit. Prenons l'exemple de l'Espagne, qui a condamné ses activités. Alors, pour faire respecter l'interdiction, la justice madrilène a ordonné la fermeture des applications d'Uberpop, la suspension de l'hébergement de données, la coupure des systèmes bancaires qui facilitent les transactions financières. Le tribunal espagnol a aussi épinglé l'opacité de la start-up californienne qui opère depuis l'État américain du Delaware, souvent décrit comme un paradis fiscal. Et en France, donc, Uberpop est considéré illégal, mais les juges n'ont pas exigé la fermeture de l'application, en tout cas pour le moment. C'est le cas aussi en Belgique et aux Pays-Bas.
Ouais, il faut dire qu'en France, les avocats d'Uberpop font jouer la montre, ils gagnent du temps.
Ils sont très puissants et ils font appel à des décisions de justice ou alors ils posent des questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur 3 d'entre elles et une 4e est à l'étude. Et pourtant, pendant que ces avocats en fait gagnent du temps, le groupe continue à engranger des revenus puisqu'il prend 25% de commission sur chaque course. Ouais.
Les choses pourraient bien changer puisque lundi, les patrons d'Uber France et d'Uber Europe ont été passés en garde à vue. Ils doivent être normalement jugés en correctionnel le 30 septembre. Ça risque donc d'évoluer?
Peut-être, mais si Uberpop est dissous, eh bien ce sera un moindre mal parce que la start-up a déjà prévu la relève. Là où elle a été interdite, elle a déjà lancé Uber Fresh, un service de livraison de repas. Il y a aussi Uber Ice Cream pour la livraison de glace, Uber Cargo pour les transports d'affaires volumineuses, Uber Move pour les déménagements et même Uber Kitten à l'occasion de la journée du chat. Alors vous voyez, Juan, Uber a plus d'un tour dans son sac.
À suivre. Merci beaucoup Ariane Gaffury du service éco d'RFI. Merci à Camille qui nous appelait de Compiègne. Reste avec nous tout de suite au journal et on revient dans 10 minutes pour parler de la politique africaine de François Hollande. À tout de suite.